du papier à l'écran.
On t'écoute, Justine, mais pas pour du Céline Dion.
Alors, bonjour à tous. Je sais, c'est triste, mais on est déjà arrivé à notre dernière chronique de février sur le thème de l'amour. Et pour clôturer ce mois en beauté, je me suis penchée sur un succès de Netflix à l'ambiance victorienne et romanesque. La chronique des Bridgerton. À l'origine, Julia Quinn était l'équivalent de J.K. Rowling, c'est-à-dire une personne qui se voyait sans cesse refuser ses manuscrits par les maisons d'édition, sans savoir qu'après, ces dernières s'en mordraient les doigts d'avoir refusé. J'ose pas imaginer le nombre de maisons d'édition qui doivent vraiment s'en mordre les doigts après avoir refusé J.K. Rowling.
Ah ouais, complètement.
Donc, Julia Quinn a beaucoup peiné pour être publiée, mais depuis sa chronique des Bridgerton, une saga de 9 tomes, s'est vendue comme des petits pains autour du monde. Pour faire simple, la saga raconte les aventures amoureuses des 8 enfants de la famille Bridgerton en Angleterre au 19e siècle. 2 saisons ont déjà été réalisées, mais étant donné que je n'ai pas vu la saison 2, j'ai trop peur d'être déçue, je me contenterai de la saison 1. Celle-ci suit Daphné, la fille aînée des Bridgerton qui fait son entrée dans la société, autrement dit son entrée dans la chasse au mari. Elle y rencontre Simon, un jeune duc au passé traumatisant qui est de retour en Angleterre pour prendre la succession de son père. Le duc ayant une réputation de libertin et Daphné étant la sœur du meilleur ami de Simon, la première rencontre entre les deux est loin d'être enjouée. Mais cela ne va pas le rester longtemps. Les costumes, l'ambiance victorienne, l'acteur qui joue le duc, qui on doit l'avouer est sacrément canon. Et ce que je préfère, les adaptations en musique classique de musique moderne comme Wildest Dreams de Taylor Swift ou Bad Guy de Billie Eilish, tout est là pour que la chronique des Bridgerton puisse permettre aux abonnés de Netflix de s'évader et de fantasmer encore sur l'Angleterre de l'époque victorienne. Et de plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans la chronique des Bridgerton, nous avons souvent l'intervention d'une certaine Madame Whistledown qui rédige une chronique où elle entend tout, voit tout et sait tout. Autrement dit, on a ici une répercussion de Gossip Girl. On a l'équivalent de Gossip Girl à l'époque victorienne. Donc, quelques différences entre le roman et la série. Tout d'abord, leur première rencontre. Dans le roman, nous avons Nigel, un prétendant un petit peu trop collant de Daphné qui finit avec un grand coup de poing de la part de la jeune femme. Alors que dans la série, nous avons juste Daphné qui bouscule le duc lors d'un bal. Daphné est beaucoup plus téméraire et espiègle que dans le roman. Daphné est très proche de Colin, alors que ça ne se voit mais vraiment pas du tout dans la série. Par exemple, dans le roman, la preuve de son attachement à Colin, de tous ses frères et sœurs, Colin était le plus proche d'elle. Avec seulement 18 mois d'écart, ils avaient longtemps été inséparables, surtout pour jouer des mauvais tours. Colin avait été un épouvantable garnement et Daphné, enfant, se faisait une joie de lui prêter main forte. Je vous le savais, chers auditeurs, je suis une romantique. Et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire partager les premières impressions des deux protagonistes qui ont eu un vrai coup de foudre au moment où ils se sont rencontrés. Par exemple, de la part de Simon. Simon crut alors que son cœur s'arrêtait de battre. Jusqu'à présent, elle était restée dans l'ombre. Aussi n'avait-il aperçu d'elle qu'une luxuriante chevelure aux reflets acajou. À présent qu'elle se tournait vers lui, il découvrit ses grands yeux sombres étirés vers les tempes et ses lèvres modelées pulpeux, les plus sensuelles qu'il eût jamais vues. S'il ne répondait pas au canon de beauté habituel, son visage félin pommette large et petit menton fin rayonnait d'une séduction si puissante qu'il en eut le souffle coupé. De la part de Daphné, qui c'est l'estrée, on le dit pas assez, mais en fait, c'est Daphné qui pense ça de la part du duc, juste pour éviter une confusion. Ses traits purs étaient l'image même de la perfection. En comparaison, les plus beaux Apollons de Michel-Ange paraissaient soudain ternes. Ça fait un petit peu, pour faire une comparaison, ça fait un petit peu référence à la première impression qu'a la princesse de Clèves envers le duc de Nemours dans le roman de Madame de Lafayette. Dedans, il y a la princesse de Clèves qui dit du duc de Nemours qu'il était un chef-d'œuvre de la nature. Donc vraiment, le summum de la beauté, quoi.
Ah, Améline, si tu veux séduire un garçon et le flatter, tu dis que c'est un chef-d'œuvre de la nature.
Ah, petit tuto.
Donc il faut mettre dans le musée du Louvre, c'est ça?
Oui.
Tout à fait, c'est ta place, c'est dans un musée. Oh là là, c'est tellement de catchphrases romantiques.
Mais après, on lui dit pas si c'est plutôt en bas, là où personne le voit, dans la poussière, ou si c'est à la vue de tous.
Et pour finir en beauté cette chronique, je voulais vous dire deux petites anecdotes. Tout d'abord, la série a été tournée dans la petite ville de Bath, dans l'Angleterre. Je ne sais plus à combien d'heures c'est de Londres, mais c'est pas loin de Stonehenge. Je ne le sais pas.
Une heure et demie, deux heures, parce que j'étais à Bath. Et c'est une très, très belle ville. Mais c'est très, très près de Londres.
Merci, je n'ai pas du tout notion de l'heure. Donc... du coup, oui, je suis allée à Stonehenge et à Bath il y a quelques années, en 2019, quand je suis partie en voyage à Londres. Et Bath, c'est une ville qui est faite en hommage à Jane Austen, au point qu'il y a un musée en son honneur. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que je n'ai pas eu le temps. Et aussi, certains ont cru voir la série comme une sorte de référence à Orgueil et Préjugés. Eh bien, ce n'est pas du tout anodin. Parce que si on a bien lu le roman, ou si on a bien regardé la série, celle-ci se déroule durant l'année 1813. Et quel grand roman est sorti justement cette année-là ? Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc, ce n'est pas du tout anodin. À la semaine prochaine pour une prochaine chronique.